Alors merci à vous deux pour ces deux exposés. Donc ce sont des exposés qui ont... On va y arriver, hein. On va y arriver, comme ça. Donc ces deux exposés ont pour point commun de traiter le parcours de l'analysant. Alors dans le parcours dans la cure, avec les trois temps, le temps de l'entrée, ce que tu appelles le high. Donc ça c'est le moment d'entrée dans l'analyse, le temps du hélas, ça c'est pour la période qui suit, c'est une sorte de période intermédiaire. Ensuite on a la sortie de l'analyse, la fin de l'analyse, c'est le ouf, mais c'est le ouf à compléter de ça. Alors bon, donc chacun dans votre exposé vous abordez ce parcours, mais avec un point de vue spécifique qui vous est propre et qui est lié à votre expérience. Alors en ce qui concerne Rosa, tu insistes beaucoup sur le temps intermédiaire, le temps du hélas, avec tu développes bien les affres et les vicissitudes de ce temps. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est pas celui dont on parle le plus souvent, hein, c'est pas celui qui est le plus développé. On s'arrête plus souvent sur le moment d'entrée, le moment de sortie.
Entre les deux, il y a 10 ans.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais souligner, c'est que quand même ce temps intermédiaire, enfin coincé entre l'entrée et la sortie, c'est quand même celui où se fait le travail analytique. Voilà, c'est quand même la période la plus... Enfin, dans la temporalité de l'analyse, c'est quand même la période la plus longue. Bon. La plus longue, comme tu l'as bien développé, parce qu'elle peut aussi rester suspendue à trois petits points, les trois points de suspension. Alors j'ai bien aimé le développement sur ces trois points qui évoquent les points interrogatifs, et qu'à un moment tu dis se connecter aux symptômes femmes. Je ne connaissais pas, je n'avais pas cette référence, avec cette jolie expression, puisque un point c'est tout, hein, qui renvoie au tout phallique, et que trois points c'est pas tout, qui renvoie au pas tout. La position féminine. Alors Luis prend aussi ce parcours. Je disais essentiellement par le moment de l'entrée. Enfin, t'as fait un grand développement là-dessus. Je reviendrai après. En tout cas, tous les deux. Insister beaucoup sur la responsabilité de l'analyste dans le parcours de l'analysant. Alors vous insistez de façon différente, avec l'importance donnée à l'acte analytique pour permettre au sujet d'entrer dans le discours, enfin d'entrer dans le processus analytique. J'allais dire dans le discours analytique. Là, je mets un bémol, parce que entre ce que tu avances et toi, il n'y a pas forcément une similitude. En tout cas, entre la façon dont toi tu développes la chose et celle que Louis développe, il y a une différence. Enfin, il m'a semblé que sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, il est certain que vous accentuez ce fait que l'acte analytique est nécessaire à l'entrée dans le processus analytique et dans le maintien du processus, dans le processus analytique de l'analysant. Alors, je vais soumettre une question, interrogation à chacun avant de passer le micro à la salle et pour initier la discussion et voir le débat. Donc, Rosa, en ce qui concerne toi, tu as insisté sur les conditions pour qu'un sujet en souffrance entre dans la voie analysante et y reste. Ça, c'était assez clair. Tu as beaucoup insisté sur le côté responsabilité du sujet analysant, des choix aussi à faire. Bien sûr, avec le rôle aussi que doit jouer l'analyste dans la chose. Donc, ensuite de ça, la question sur le développement que tu as fait, sur le hélas, qui est très parlante, et celle qui marque la fin, donc celle du ça alors, où les trois points de suspension se réduisent à un point final. Pas uniquement, parce qu'ils sont toujours là malgré tout. Ils doivent être là. Alors, la question de ce point final, il me semble, c'est que c'est le ça alors. C'est le ça alors. Enfin, dans ce que tu appelles le point final, c'est le terme de la quête de la vérité.
L'identification au symptôme.
Alors justement, ouais, on va pouvoir discuter effectivement sur qu'est-ce qu'on peut entendre par le point final. Donc effectivement, dans ton exposé, le point final, c'est l'identification symptôme. Donc c'est conjoint avec ce suspens, cette fin de quête de vérité, qui vient quand le sujet aperçoit, comme tu dis, quelque chose de sa jouissance de symptôme. Et comme tu le dis avec une formulation qui m'a bien plu, qu'il en vienne, donc ce sujet en fin de cure, donc à l'affectionner ce symptôme. Ça m'a particulièrement plu, puisque moi-même j'avais à l'occasion utilisé une expression avoisinante, puisque je pense que je désignais la même chose, être en sympathie avec son symptôme. Être en sympathie avec son symptôme, alors que quand même jusqu'à ce moment-là, on est plutôt en antipathie avec son symptôme. Bon, après, il y a les remarques qui sont toujours intéressantes sur les parents, les pauvres parents, de toute façon, quoi qu'ils fassent, hein, qu'ils soient permissifs ou répressifs, c'est jamais la bonne mesure. J'ai une petite question quand même. Peut-on affirmer qu'on est victime d'un discours ? C'est ce que tu dis à un moment, on est victime du discours. Alors, est-ce qu'on est victime d'un discours auquel on est apparolé ? Je te pose la question. Alors, en ce qui concerne Louise, donc déjà, je ferai une petite précision. Louise, tu t'appuies sur la lecture du texte de Lacan. Bon, tu l'évoques, hein, sur la proposition du 9 octobre 67 sur le psychanalyse de l'école. Alors, c'est dit, mais c'est important de le préciser parce que tu t'appuies quand même beaucoup sur ce texte pour construire ton exposé. Alors moi j'ai un petit avantage sur vous parce que j'ai eu le texte avant, donc j'ai pu le lire et le relire, et puis j'en ai profité pour retourner sur cette proposition du 9 octobre 67 sur le psychanalyse de l'école. Alors dans ta présentation ce soir, j'ai repéré plusieurs axes. Il y a ce qui m'est apparu comme un axe principal et au moins deux axes que je dirais secondaires. L'axe principal, il me semble, est celui qui est... Tu le poses dès le début de ton exposé, parce que tu affirmes comme étant présent dans l'analyse, donc quelque chose qui est présent à son commencement et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est, donc il y a ce qui est d'entrée de jeu présent, ce qui ne l'est pas, et ce qui ne l'est pas, et qui va apparaître après, comme étant tributaire de l'acte analytique, donc secondaire. Donc, tu poses que l'analysant est au départ, en reprenant la formule de Lacan, donc extraite de cette proposition, quand il dit « nous n'avons pas à rendre compte de ce qui le conditionne ». il est... j'arrive même pas à me relire.
Il le conditionne ici.
S'il le conditionne ici, il est au départ. Donc ensuite, tu poses que le transfert... Alors là, en ce qui concerne le transfert, tu le divises. Transfert qu'on pourrait appeler d'un côté tout venant. Celui qui est présent à chaque demande d'analyse. Et donc distinct de ce que tu appelles le transfert analytique. Donc qui est le transfert ? Donc le transfert analytique n'est pas une donnée présente d'emblée dans l'expérience. Il y faut ce que tu avances, hein, c'est qu'il y faut l'acte analytique pour que le transfert s'installe. Et comme le ressort du transfert est le sujet supposé savoir, l'acte analytique est requis pour la constitution de ce sujet supposé savoir. Et cette instauration du sujet supposé savoir par l'acte analytique a pour conséquence que l'analyse devienne quelqu'un pour l'analysant, qu'il devienne quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne soit plus simplement qu'un nom. Alors c'est cette matrice qui m'a, j'ai résumé, qui donne l'orientation de ce que tu développes. Après, il y a deux axes secondaires, enfin ce que j'appelle secondaire. Il y a la question de la rencontre avec le réel de l'analyste. Voilà, ça nécessiterait aussi quelques questions. Et l'autre axe, c'est en ce qui concerne le discours en question. Et tu as beaucoup développé sur l'entrée dans le discours hystérique sous l'effet de l'acte analytique. Bon, là, on pourrait aussi se questionner. Bon, mais je vais pas le faire pour pas embouteiller. La remarque que je me suis faite, c'est que... tu n'as pas fait un commentaire de cette proposition. Je me suis dit que si moi, je m'étais lancé dans le commentaire de cette proposition, j'aurais pris un autre départ. Et... j'aurais inversé les choses. J'aurais inversé les choses, à savoir que... à savoir que le transfert est déjà là, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'analyste, et que le psychanalysant n'est pas présent d'emblée. Hein.
C'est ce que j'ai dit.
Ça dépend des endroits. Je te donne le micro après. Après quoi ? Alors justement, il n'est pas présent d'emblée, et après, qu'il ne le devient que par son entrée dans le discours analytique. Voilà, donc ça, c'était une façon de lancer la discussion. Donc je donne la parole à Rosa, puisque...
J'ai oublié la question, mais bon, c'était, est-ce qu'on peut dire... qu'est-ce que tu m'as dit déjà ? La question, c'est, est-ce qu'on peut dire qu'on est victime d'un discours, c'est ça ? Alors, comme vous avez remarqué, c'est pas le concept principal de mon exposé et dont j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai choisi celui-ci parce que juste avant, j'avais dit le discours dont il est pétri. Donc, pour ne pas me répéter, j'ai dit le discours dont il est victime. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être victime ? T'as une idée, toi ? Moi, je trouve que ça ne me choque pas. Je ne sais pas, ça vous choque ? Non, ça te choque ? Non.
C'est pas que ça me choque, ça pose une question. Ça pose une question.
J'en ai pas fait tout un.
Non, mais c'est pas la première question que j'ai posée. Hein. La première question, que ça concernait ce que tu. Oui, c'est la question du point final. La question du point final. Où est-ce que tu situes le point final ?
Je l'ai dit,
il me semble que je l'ai dit dans mon texte, le point final, c'est le ça alors, c'est l'identification aux symptômes. C'est le point final de l'expérience du divan. Après, il y a toujours les points de suspension, moi je l'ai dit.
Oui, alors sur l'histoire de la victime du discours, moi j'ai un patient qui récemment me disait qu'il était victime de son quotidien. Donc, oui, sur l'idée que quand même on est dans une époque de victimisation assez généralisée. Bon, c'était une petite remarque latérale.
On est victime du discours courant.
Oui, voilà. C'est ça. Voilà.
Oui, c'est ça. On est victime du discours. Enfin, ça serait l'idée qu'on s'est. Ça reviendrait à ça. Voilà. Bien, bon, alors. À toi.
Oui, je veux dire d'abord quelque chose à Rosa.
Aïe.
Sur. Non.
Vas-y.
C'est pas aïe. Non, sur les points de suspension. Parce que c'est vrai, c'est, tu les développes bien. Tu le corrèles comme Lacan aux symptômes femmes, mais juste avant, ce que dit Lacan, c'est qu'il le corrèle à tout symptôme.
Oui.
Donc c'est pas lié de façon exclusive à la question du symptôme femme. Le symptôme femme vient comme un des exemples. Alors pour dire ça, il ne pose pas uniquement le point de suspension, je le dis pour qu'on discute, hein. Il ne pose pas le point de suspension juste sur la question de l'interrogation, mais sur ce qui s'écrit du symptôme. C'est qu'il ne cesse pas de s'écrire. Donc plutôt, il le pose comme effet, je pense qu'il le dit dans ce sens-là, comme effet de l'analyse, pas de ce qui est en suspens, mais ce qui est en train de s'écrire dans l'inconscient.
Tout à fait. Mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Seulement, le point de suspension, comme j'ai dit, c'est polysémique. Donc, ça peut. Un des sens, c'est ce que tu viens de
c'est
dire.
C'est ça. Oui, juste pour compléter. Oui, par rapport à ce que tu dis, Patrick, donc finalement, on est à mi-chemin, pas à l'opposé. Parce que sur la part de psychanalysant, on est d'accord, on le devient, c'est le titre, mon titre, on devient, on n'est pas d'emblée, et analysant, puis par rapport au transfert, là on peut discuter, à mon avis, le transfert n'est pas d'emblée, non, ça je le soutiens, c'est un de mes axes, le transfert n'est pas d'emblée, le transfert qui est d'emblée, c'est un transfert imaginaire.
Ce que je trouvais intéressant, c'est la différence que tu fais entre le transfert symbolique, imaginaire ou symbolique, et le transfert qui vient après dans la cure, transfert avec tout ce que tu développes sur le réel de l'analyste. Ça, je trouvais intéressant.
D'accord. Donc, si on pose la thèse que le transfert n'est pas d'emblée... Oui. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté le transfert, ce que tu appelles le transfert analytique. Comme le ressort du transfert, c'est le sujet supposé savoir, c'est-à-dire que le sujet supposé savoir n'est pas présent d'emblée.
Non.
D'accord.
Je crois que c'est l'idée de Lacan dans la proposition même. Le mathème du transfert, c'est pouvoir inscrire dans le dispositif le signifiant qui constitue le sujet supposé savoir. Donc laissons de côté la partie réelle, au moins pour la constitution du sujet supposé savoir. Ça s'institue dans la rencontre avec l'analyste, donc ça peut pas être d'emblée.
Oui, monsieur, il y a une longueur de.
C'est le bleu qui a une longueur.
Ah. Attention.
Spécialiste
du jockey,
hein.
J'entends pas. Oui, j'ai deux petites questions sur l'entrée et sur la sortie. Alors à Louise sur l'entrée, moi j'ai cru entendre, et ça m'a intéressé, que même avant la mise en place du sujet supposé savoir, le choix de l'analyste repose sur un point de réel. J'ai entendu ça ou je me trompe ?
Mais oui, oui,
oui. D'accord. Ça m'a évoqué, alors, un exemple analytique d'une dame qui est venue me voir un jour et dont le nom était une partie du mien. Il manquait la fin de mon nom, c'est-à-dire l'un. Ben, elle s'est arrêtée là. Hein. Elle n'a pas continué. Bon, c'est un exemple. Mais je veux dire que ce choix-là se fait sur un élément, et un élément où il y a un point de réel, un point de jouissance, non, naturellement non identifié, hein, ni par l'un, ni par l'autre, ni par l'analyseur, ni par l'analyste. Et pour la sortie, effectivement, j'étais assez sensible à l'affectionné. Je me disais qu'entre affect, de l'affect à l'affectionné, donc l'identification au symptôme, parce que identifier au symptôme, c'est quand même affectionner son symptôme, quelque part, sans faire une identité, quelque part. Je crois que tu es d'accord là-dessus. Oui, d'accord. Enfin, ça m'a beaucoup plus.
Le micro, alors au fond.
Carlos.
Carlos qui veut prendre le micro. Je ne sais pas s'il va aller jusque là-bas, le fil. Tout va partir.
Merci. Je voulais interroger Rosa sur un point de votre exposé, c'est que vous avez mis, disons, en valeur la question de la responsabilité de l'analyste, en fait, pour permettre, en fait, on va dire, l'acte analytique. Et vous avez dit, il y a aussi une responsabilité de l'analysant par rapport aux effets. Et donc, vous avez cité des exemples, en fait, notamment quand il y a un achoppement, il y a une suspension, etc. Et du coup, je voulais vous interroger sur la responsabilité de l'analyste dans ces moments d'achoppement ou des suspensions. C'est-à-dire, comme vous avez donné quelques exemples, ça m'intéressait de voir si dans l'après-coup, disons, vous avez pu nous, disons, identifier, voilà, en quoi l'analyste, en fait, aussi, il porte ou pas, hein, une responsabilité, disons, dans ces moments de suspension. Voilà. Merci.
Ça mériterait quelques réflexions, mais bon, comme il faut le dire vite. Lacan dit que l'analysant a horreur de son acte, mais que l'analyste a aussi horreur de son acte. Donc, il se peut très bien que dans certaines suspensions de l'analyse, la responsabilité incombe à l'analyste. Bon. Alors, quoi exactement ? Il faudrait faire tout un travail là-dessus, ça, je ne sais pas. Après, dans ce que je disais, là où j'ai mis l'accent, à chaque fois qu'il se trouve devant un « il n'y a pas », donc tout ce qui évoque la castration, etc., enfin, tout ce que j'ai développé, ça, qu'il le supporte ou pas, ça incombe à la responsabilité de l'analysant. Ça, l'analyste n'y peut rien. L'horreur de savoir, la haine qui est l'autre passion de l'être, comme Lacan le dit à maintes reprises, ça, l'analyste n'y est pour rien. Après, que dans certains achoppements, il y soit pour quelque chose, oui, bien sûr, et à chaque on a tous des moments cliniques où on se dit est-ce que là j'étais assez attentive, mais bien sûr.
C'est pas vraiment des questions. Enfin, si c'est, il y a une, quelque chose qui est une question, mais je sais pas comment elle va tomber. Moi, j'aime beaucoup les points de suspension, en tout cas. Mais vous avez parlé des libertins, vous avez parlé des romantiques, et puis du coup, ça me donne envie de vous demander si vous avez une idée de la valeur qu'on peut donner aux points de suspension chez Louis Ferdinand Céline, qui est quand même le... Après tout, c'est vous qui avez lancé la série, hein, 18e, 19e, 20e siècle, il y a le point virgule de Proust et le point de suspension de Céline, donc est-ce alors, que... Voilà.
Non, là, comme ça, je ne veux pas... si ça vous intéresse la question, Julien Roux, il en parle précisément de bon. Céline. Je vous lis exactement ce qu'il a dit maintenant. Julien Roux, c'est le livre... Ça s'appelle la poétique des points de suspension, qui est super comme livre. C'est vraiment un livre très intéressant. Et il parle de Céline. Mais j'ai oublié ce qu'il a dit là. Julien Rault, R-A-U-L-T. C'est super comme livre. C'est vraiment très intéressant.
Puisque j'ai le micro, j'en profite.
Mais si vous, peut-être que vous pouvez en dire quelque chose là, comme ça,
je cherchais si j'avais quelque chose à en dire, mais je vais d'abord lire.
Je sais qu'il dit qu'au XXe siècle, c'est beaucoup plus ironique.
Oui.
Les boîtes de suspension. Mais
les SMS sont.
Oui. Et alors, du coup, il cite aussi la façon, par exemple, comme les garçons et les filles s'envoient des SMS en disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire par là, hein? Mais on va se voir, par exemple, on va se voir ce soir. 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'il dit? C'est plus.
Oui, ça, c'est l'énigme. Ça nous. Ça me permet de poser ma petite question à Louise. J'espère qu'elle ne va pas être trop compliquée. Mais enfin, ton exposé était un peu compliqué aussi, donc ça va.
Tu peux te permettre.
Non, je me demandais, parce que moi je trouve le séminaire sur l'acte analytique auquel tu as fait allusion tout de même, aussi, il me semble, assez complexe, c'est moi qu'on puisse dire, et avec cette question, en tout cas, que je me pose peut-être à tort, je ne sais pas, mais enfin, c'est une question que je me pose, qui est, alors, c'est où ça se passe, enfin, parce que finalement, dans ce séminaire, à mon avis, il y a des contradictions de Lacan avec lui-même, entre le je ne suis pas et je ne pense pas, et tout ça, enfin, j'en trouve, et je me suis, donc, en t'écoutant, je me dis, finalement, peut-être que, est-ce que ton idée de l'analyste numéro 2, celui du transfert réel, d'accord, est-ce que c'est celui qui dit je ne suis pas le sujet supposé savoir? Est-ce que c'est ça l'acte, enfin, est-ce que ça peut être une formule recevable, si ce n'est acceptable, de l'acte analytique? Je ne suis pas le sujet supposé savoir.
On va répondre.
Garde-le, on va le faire circuler ici à la
table. Oui, je vais essayer. Je vais reprendre aussi la question de Françoise. Le problème avec la question du transfert réel, c'est qu'à chaque fois qu'un analysant veut dire je peux dire quelque chose du réel de l'analyste, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas à toi de pouvoir le dire non plus.
Non, c'était j'ose. Quelque part, j'ose là, elle n'a pas pu. C'est ça que je voulais.
Oui. Il y a un point qui me semble, si on suit au moins les choses théoriquement, restons au niveau de la théorie. Quand Lacan distingue la fin d'analyse entre le sujet supposé savoir et le deuil, pas uniquement comme tu l'évoques par rapport aux idéaux, mais le deuil qui consiste à faire le deuil de l'objet. Donc, qui c'est par ces deuils-là que ça aboutit à la question du désêtre de l'analyste pour l'analysant. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas uniquement lié au sujet supposé savoir, à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a une distinction entre la position de l'analyste comme venant à incarner la place du sujet supposé savoir, et l'analyste comme être pour le sujet, parce que pour devenir des êtres, c'est parce qu'avant il était être. Donc être, c'est être quelqu'un pour un sujet. Alors la question, il me semble, la question qui serait du côté, si je te comprends bien, Frédéric, ce qui serait une énonciation de la part de l'analyste, l'énonciation que je ne suis pas le sujet supposé savoir. Je crois que ça serait une énonciation qui permet l'instauration du sujet supposé savoir, d'une certaine façon. Donc on reste dans les coordonnées symboliques. C'est parce que je sais, mais je ne suis pas le sujet supposé savoir qui peut se constituer un tiers. Donc le sujet supposé savoir, c'est tiers entre le sujet et l'analyste. Mais ça, c'est une des dimensions. Puis l'autre dimension, c'est si on admet qu'il y a du des-êtres, et avant il y avait un être, donc l'être, c'est finalement quelqu'un d'à part, de différent des autres, qui s'accepte un ensemble. Donc ça, forcément, ça implique un réel. D'ailleurs, quand on évoque la dimension de l'analyste comme complément du symptôme, du sujet, ben, si on admet, justement, dans la même leçon où tu évoques le point de suspension, il dit « le symptôme, c'est du réel ». Donc le symptôme, c'est du réel. L'analyste, comme complément du symptôme, il y a un réel qui se joue avec l'analyste.
Ah oui, c'est sûr. Donc ça, ta distinction est tout à fait intéressante, moi, je trouve.
Alors, qui souhaite poser une autre question ? Alors bon, avant qu'une question émerge, je veux questionner Louis sur l'autre axe.
Et après, je vais poser une question à Rosa.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, pas privé. Oui, c'est ce que tu développes sur l'entrée dans le discours hystérique, c'est ça ? Donc, qui est à la charge de l'analyste de faire entrer l'hystérisation du discours. C'est ce que tu appelles l'hystérisation du discours. Donc, qui est la place que doit occuper dans le discours, dans le dispositif analytique, le sujet, comme à entrer dans le discours hystérique. C'est comme ça que je... Bon. Alors, comment tu articules ça avec le discours analytique lui-même et la place que l'analysant occupe dans le discours analytique ?
Oui, ce que j'ai essayé de distinguer, ce sont deux moments différents, au moins dans le cas où le sujet vient avec le discours du maître. Il y a des sujets hystériques qui viennent avec le discours du maître, qui viennent et disent, bon, c'est comme ça, pas d'une autre façon. Donc, le discours hystérique, c'est déjà mettre c'est lui qui n'est pas encore analysant, disons, un point de suspension. Donc, mettre, c'est lui en position de sujet. Donc c'est ça qui est l'hystérisation, essayer de réussir à qu'il soit un sujet barré. Donc au départ, il n'est pas forcément sujet barré. Et puis le fait d'être sujet barré, ça ne suffit pas pour faire une analyse. Il peut être sujet, être hystérique, il y en a beaucoup comme ça, qui ne peuvent pas rentrer dans le discours analytique. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai, sur ces points-là, j'évoquais comme le renversement d'énigmes. Il faut qu'il s'opère ce deuxième pas. Donc je te pose la question. Je suis obligé de la poser parce que tu fais une seule citation. Donc quand il y a une seule citation, on se pose la question, pourquoi tu fais cette citation ? Donc, deuxième point, c'est quand on n'est pas d'accord avec la citation. Donc, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, je suis pas complètement d'accord avec la citation. Au moins que tu l'expliques, qu'est-ce que tu as compris de cette citation. La citation, elle dit, la position phallique a un goût de nécrophilie. Explique-moi ça.
Bon, alors c'est une citation de Mustapha Safwan. Et alors, c'est curieux que tu me poses la question, parce que quand j'ai fait la citation, je me suis dit, oh, ça, au forum, ça ne va pas passer.
Ça ne veut pas dire si c'est ça. Hein? Ça ne veut pas dire si c'est ça.
Ah si, si, non. J'ai fait exprès de le dire. Bon. Alors, pourquoi? Parce que la position phallique, comme on l'entend, enfin, moi, j'étais formée auprès de Safran, de Leclerc, de Clavreul, on parlait toujours de la position phallique, c'est-à-dire être le phallus imaginaire de l'autre qui comble, donc absence de castration, etc.
Pour, ça va.
Bon. Pourquoi ça a un goût de nécrophilie? Parce que, c'est, moi je trouve que c'est assez explicite dans ce qu'il dit, parce que c'est une jouissance que le sujet trouve dans une façon d'être, qui est toujours une frustration d'être. Pour moi c'est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Mais parce que c'est mortifère.
Ah bah
oui.
Ah
oui.
Oui, excuse-moi. C'est vrai qu'on critique beaucoup la position phallique, mais là, un mérite, c'est que quand même, c'est une position de désir, la position phallique.
Les deux, mais c'est...
Ah non, ça peut pas être les deux à la fois. On peut pas être dans une position de désir et avoir un goût pour comment il dit, la nécrophilie.
Oui, j'entends ce que tu veux dire, oui. Mais moi je travaille pas mal avec Safran, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que cette satisfaction complète est impossible et que donc du coup, elle ne peut être que frustrante tout le temps et c'est dans la frustration qu'il voit le côté mortifère. Tu entends ce que je veux dire ou pas? C'est le fait que cette quête de satisfaction totale est impossible. C'est dans cet impossible.
C'est que la nécrophilie, par définition, elle est hors phallus.
Oui, ben d'accord. Je vois ce que. Ouais. On peut l'entendre comme tu dis. Moi, ça, on peut dire comme ça. Alors, plutôt que de nécrophilie, il faudrait dire que c'est une frustration constante. Bon, chacun.
C'est la conclusion du rapport. Quoi ? C'est la conclusion du rapport. Oui. Viens prendre le micro.
Oui, bon, vous pouvez dire.
Oui, c'est l'un et l'autre. Je crois que c'est la notion de position phallique qui a un goût de nécrophilie. C'est-à-dire associer phallus et position. Ça fige les choses dans un syntagme qui est lui-même
je crois que,
mort.
Ouais, je crois que ce que tu dis, François, c'est ça. C'est-à-dire que pour Safran, c'est le côté non détumescent qui est impossible à tenir. Donc, pour lui, c'est pour ça qu'il parle de... Alors, j'entends bien ce que tu dis et je comprends aussi qu'on puisse ne pas être d'accord avec la formule à cause de ce que tu dis. Ouais. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, je crois qu'il a utilisé cette formule pour faire un pacte, c'est comme un discours dont on est victime. Ah bon? Je lui dirai la prochaine fois.
On lui fait pas de mal, il n'est pas tout jeune.
Peut-être, je ne sais pas. Oui, j'entends ce que tu dis.
Il y a quand même aussi dans la position phallique, ne serait-ce que chez les hystériques qui montrent leur partenaire.
Comment
ça a quelque chose à voir, en effet, avec une sorte de nécrophilie.
J'ai pas compris quoi.
J'ai une position phallique très affirmée.
Oui. Voilà, je trouve que la position phallique, oui, elle n'est pas du tout incommodée par le terme de nécrophilie, des fois, hein, enfin, poussée dans certains extrêmes.
La nécrophilie, par définition, c'est l'amour de la mort, non ? C'est difficile de le rendre compatible avec le phallus.
Oui, en fait, évidemment, comme tu dis, oui.
C'est ça.
Oui, j'entends bien ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui.
Mais bon, c'est pas l'essentiel. Hein.
Non, mais je. Oui, j'entends bien ce que tu veux dire. Il faudrait peut-être trouver en effet un autre adjectif pour dire ça. Oui.
Bon. Oui, je ne suis pas certain quand même que c'est le propre des hystériques que d'aller bouffer leur partenaire quand même. Non, mais c'était pratique, il existe. De bouffer son partenaire dans le réel.
Où ça ?
Toi, tu parlais de manger son partenaire symboliquement ?
Elle va pas
plus mal. Ah oui, non, mais c'est. Si lui mordiller l'oreille, c'est ça. Ah, c'est pas la même chose.
Et c'est gavant, ça bouffe, c'est. Voilà, il me bouffe et ça me gave. Oui, mais
c'est une bien sûr. Oui, non, mais c'est il me bouffe, c'est pas je le bouffe.
Bah, on dit bien je vais te croquer.
Exactement. Je vais te croquer.
Je vais te croquer.
Manger tout cru. Bon, donc on va goûter. Merci à vous deux pour ces deux exposés passionnants. Et puis à la prochaine fois. Attendez, est-ce qu'il y a une annonce à faire? Claire, la séance du 14. Oui, alors samedi, il y a notre samedi après-midi, mais par rapport au séminaire, le 14 avril.
Juste une petite annonce, c'est pour dire que le séminaire, la séance du séminaire Charles Lacanien qui était prévue jeudi prochain, le 14 avril, n'aura pas lieu comme prévu. Voilà. Et par contre, on vous attend tous nombreux ce samedi après-midi pour l'après-midi d'école.